Radio France Internationale, 6h30 à Paris, il est 5h30 à Kinshasa. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et dans votre journal, les soldats de la force régionale de la SADC en République démocratique du Congo vont donc quitter le pays.
Un départ par les airs depuis Goma et son aéroport international. Un accord a été signé avec l'AFC-M23 qui entend bien faire payer la communauté d'Afrique australe. Mais pour l'heure, aucune date n'a été arrêtée. Les files de véhicules s'allongent devant les stations-service de Bangui. Plus une goutte de carburant dans certaines pompes. Les revendeurs en profitent pendant que le coût de la vie quotidienne augmente. Reportage sur place. Deux membres du groupe des sages de l'Union africaine à Djouba pour tenter de sauver l'accord de paix de 2018, alors que le vice-président sud-soudanais Riek Machar est toujours en résidence surveillée par les forces de sécurité du président Salva Kiir. Et puis le Sénégal, c'est aujourd'hui que s'ouvre à l'Assemblée nationale le débat sur la loi d'amnistie. Des organisations de la société civile demandent un consensus national fort et un débat citoyen. Ils sont sud-africains, tanzaniens ou encore malawites. Ces soldats qui composent la force de la SADC en République démocratique du Congo vont quitter le territoire, mais on ne sait pas encore quand. Une page qui va se tourner à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, plus d'un an après la signature en présence du président Félix Tshisekedi de l'accord établissant le statut de la force. Les représentants de la SAMIDRC et le M23 qui contrôlent désormais la ville se sont entendus vendredi dernier. Le groupe armé s'engage ainsi à faciliter le départ des troupes avec armes et équipements via l'aéroport international de la ville. Mais alors, comment, quand et à quel prix va se faire cette sortie par les airs? Élément de réponse avec Patien Ligodi.
Le troupe de la SADC refuse un retrait par la frontière rwandaise, confirme plusieurs sources diplomatiques. Cette position vise à éviter une nouvelle humiliation. Le souvenir des images montrant des membres européens d'une société militaire privée en soutien au FRDC contraints de traverser la frontière Goma-Gisenyi, le main en l'air, reste vif, ajoutent les mêmes sources. Le départ par l'aéroport international de Goma est donc devenu un impératif, même si cela implique un coût. Ce coût, c'est celui de la réhabilitation des infrastructures. L'AFC-M23 exige une implication de la SADC dans les travaux, notamment les déminages, l'assainissement du site, ainsi que la remise en état de la piste de la tour de contrôle. L'accord ne précise pas qui en financera l'exécution, mais pour l'AFC-M23, la charge revient clairement à la SADC. Le texte prévoit également que les troupes répartiront avec leurs équipements, composés essentiellement, selon les informations des RFI, d'armes légères et de blindés légers transportables par avion. Aucun calendrier n'a été communiqué, mais les étapes du retrait sont arrêtées. Avant cet accord, les militaires de la SADC étaient isolés, étroitement surveillés et considérés comme des vaincus par l'AFC-M23. Selon un rapport des Nations Unies consulté par RFI, la MONUSCO a assuré pendant 15 jours l'approvisionnement en vivres pour environ 4500 soldats.
Patient Ligodi. Les stations-service à sec à Bangui, voilà 4 jours désormais que les files de véhicules s'allongent. Objectif, trouver quelques gouttes de carburant. Certaines stations font tourner les pompes quelques heures par jour avant d'être vidés, d'autres ne peuvent même pas ouvrir, faute de carburant, et sur place, les conséquences socio-économiques sont déjà ressenties. Reportage Rolf-Steve Domialeux.
À la station Cadex du centre-ville, des scènes de bousculade. Fatigué après des heures de lutte, Alphonse se repose dans sa voiture.
Pour en avoir, il faut quitter au moins à partir de 3h, minuit. Pour en trouver, c'est un peu difficile. Il faut négocier avec les pompistes qui sont sur les pompes pour leur donner quelque chose.
Au nord de Bangui, des files se dressent devant la station totale de PK12, mais aucune goutte de carburant ne sort des pompes. Michel est conducteur de mototaxi.
Vous voyez des tas de bidons, les motos, les voitures, et des tas de bidons, c'est pour les revendeurs. Si tu quittes la maison à 3h, tu peux avoir le carburant à 9h. Arrivé à 9h, 10h, on va dire non, le carburant est fini, on ne peut plus continuer la vente, il faut revenir demain, tout ça.
Depuis 4 jours, le quotidien des usagers comme Sylvain se résume pratiquement à faire la chasse à la perle rare. Dépassé, il est obligé de se ravitailler chez les revendeurs.
Nous sommes depuis d'ici environ 3h, mais on n'a pas trouvé le carburant. Au bord de la route, nous avons acheté en 1400, en 1500. C'est trop fort.
Pourtant, à la station, le litre coûte 1100 francs CFA. Cette crise n'est pas sans conséquence, selon Erika, qui déplore l'augmentation des tarifs de transport.
Ce problème de carburant fait doubler le prix des transports en commun. C'est difficile de se déplacer dans la capitale à l'heure actuelle.
Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore réagi. Rolf-Steve Domialeux, Bangui, RFI.
Une nouvelle tentative de recherche de paix par la voie diplomatique au Soudan du Sud ce mercredi, après la visite en fin de semaine dernière de l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga à Djouba. C'est au tour d'une délégation de l'Union africaine de faire le déplacement dans la capitale. Deux membres du groupe des sages de l'UAE au sein de cette délégation, Domitien Ndayi Zézé, ancien président burundais, et Fio Uor, une juge kényane à la retraite. Leur mission doit durer 5 jours alors que le vice-président Riek Machar est toujours en résidence surveillée. RFI Djouba, Florence Mieto.
La médiation de l'Union africaine parviendra-t-elle à briser le blocage politique en cours à Djouba? C'est l'espoir de Joram Biswaro, ambassadeur de l'Union africaine au Soudan du Sud. Joint par RFI, il affirme que la visite du groupe des sages est, je cite, « une mission de solidarité avec le peuple du Soudan du Sud pour voir comment la crise peut être désamorcée ». La tâche de la délégation de l'Union africaine s'avère difficile. Vendredi 28 mars, Raila Odinga n'avait en effet pas eu la permission de rencontrer Riek Machar. L'ambassadeur Joram Biswaro explique que l'intention du groupe des sages est bel et bien de, je cite, « s'adresser à tout le monde, au président, au premier vice-président, aux autres vice-présidents et partis politiques, ainsi qu'aux églises et à la société civile, afin que le Soudan du Sud émerge de cette crise ». Créé en 2007, le groupe des sages a pour but d'appuyer les efforts du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, en particulier dans le domaine de la prévention des conflits. Conseil paix et sécurité qui a appelé hier à la libération immédiate et sans condition du vice-président Riek Machar. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Un accord entre l'Ouganda et un investisseur venu des Émirats Arabes Unis signé ce samedi. Kampala poursuit ainsi son rêve de raffinerie pétrolière en s'associant au groupe MBM Investments pour la construction d'une usine capable de sortir 60 000 barils par jour à Hoima, c'est dans l'ouest du pays. Le pétrole brut y serait transformé localement, ce qui bénéficierait à l'économie, assurent les autorités qui promettent dans le même temps des créations d'emplois et un renforcement de la souveraineté énergétique. Mais ce n'est pas sans rappeler plusieurs projets similaires qui se sont soldés en échec. Alors forcément, plusieurs voix craignent un scénario qui se répète. Christina Okello.
C'est un virage stratégique, a annoncé le président Yoweri Museveni sous son compte X. Désormais, l'Ouganda exportera des produits raffinés au lieu de les importer. À titre de comparaison, ce projet reste modeste face à d'autres initiatives pétrolières en Afrique, comme la méga-raffinerie de Dangote au Nigeria. Mais pour Kampala, l'enjeu est ailleurs, reprendre la main sur sa filière énergétique. Problème, l'État ougandais ne finance que 40% du projet, le reste appartient à l'investisseur émirati. Et sur le terrain, le scepticisme domine. Diana Naburuma, de l'Institut africain pour la gouvernance énergétique.
J'ai entendu tellement d'annonces à propos de la construction d'une raffinerie et puis après les investisseurs se retirent. Parfois je me dis que tout cela sert à des fins électorales. On a des élections générales prévues au début de l'année prochaine et brandir la promesse d'une raffinerie et de création d'emplois, eh bien c'est toujours bon pour faire campagne.
Depuis 15 ans, les accords s'enchaînent et tombent à l'eau. La faute, selon les experts, un manque de rentabilité. Difficile d'exploiter à la fois une raffinerie et l'oléoduc ICOP, préféré par Total Energy. Comme ICOP, la raffinerie serait construite à Hoima, où 7000 personnes ont été déplacées en 2009 pour un précédent projet jamais abouti.
Les habitants ont été déplacés de leurs terres fertiles et relogés dans un village du district de Hoima, sur des terres beaucoup moins fertiles et sans accès suffisant à l'eau.
Selon la compagnie pétrolière publique ougandaise, UNOC, la construction de la raffinerie pourrait démarrer d'ici 4 ans.
Christina Okello, RFI, l'actualité du continent africain. En bref, on connaît la date du référendum sur une nouvelle constitution. En Guinée, ce sera le dimanche 21 septembre prochain, échéance fixée par la junte au pouvoir et annoncée ce mardi soir à la télévision publique. Les militaires qui voient cette consultation comme une première étape devant aboutir à un retour à l'ordre constitutionnel. Et puis la junte nigérienne, elle, a décidé de libérer une cinquantaine de personnes, des personnes qui bénéficient d'une remise en liberté conformément aux recommandations des Assises nationales pour la refondation tenues en février, indique le secrétariat général du gouvernement. Parmi elles, d'anciens ministres du régime renversés en 2023, on peut citer Mahaman Sani Issoufou, fils de l'ancien président Mahamadou Issoufou, ou encore Kalamoutari Ahmed Djidoud et Ibrahim Yakoubou, tous trois anciens ministre, d'autres responsables politiques, un ancien ambassadeur, un journaliste ou encore des militaires accusés de tentatives de coup d'État il y a plusieurs années. Elles sont également concernées par ces remises en liberté. liberté. Pour l'heure, ces libérations ne sont pas encore effective. Et puis c'est aujourd'hui au Sénégal que l'Assemblée nationale examine un projet de loi pour réviser une loi d'amnistie adoptée il y a un an à l'initiative de l'ancien président Macky Sall, un texte qui annule les poursuites pour l'ensemble des crimes commis lors des manifestations de l'opposition entre février 2021 et février 2024 et au cours desquelles ont été recensés au moins 65 morts. À leur arrivée au pouvoir, les nouvelles autorités avaient promis de l'abroger. Finalement, c'est l'amender qui est proposé, ce qui divise de nouveau. De leur côté, des associations de la société civile, une vingtaine au total, ont ainsi appelé à surseoir au débat au Parlement et à ouvrir des concertations sur cette loi. Je vous propose d'écouter Aliou Sané de l'association Y'en a marre.
La problématique de cette loi d'interprétation, c'est avant tout un problème d'ordre moral. Et donc, consulter les acteurs d'abord. C'est parce que cette loi n'est pas une loi comme n'importe laquelle. C'est une loi qui traite d'un moment douloureux de notre passé récent, avec plus de 80 morts, 2000 prisonniers, des personnes torturées, des personnes qui ont été victimes de traitements inhumains et dégradants, des personnes qui ont été victimes d'incendies de leur domicile, entre autres pratiques. Donc, ce n'est pas n'importe quelle loi. Si on décide de régler ce problème, cette situation, cela mérite quand même que les Sénégalais, dans leur diversité, puissent être écoutés pour qu'on puisse arriver à un consensus national fort. C'est ça le mot, un consensus national fort autour de cette question. C'est un débat qui devait être un débat citoyen, parce qu'il doit engager toute la société sénégalaise.
Aliou Sané de l'association Y'en a marre, il était au micro de Léa Lisa Vesterhoff à Dakar.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre, entretien inédit avec Amadou Ndiko, défenseur des droits humains au Mali, arrêté par la sécurité d'État de son pays en décembre 2023 avant d'être détenu 3 mois au secret. Ce matin, il revient sur cet épisode alors que les